René Mézeroy, le pleureur. Comme la petite Josette Grenelle, renfermant son large éventail, s'écriait « Mais quel plaisir ce garçon peut-il trouver à attendre les faire-part de deuil aussi impatiemment qu'une invitation à quelque fête, à suivre ainsi, comme un employé les pompes funèbres, même les enterrements d'inconnus où il ne fut pas convié ?» Robert Davaine, cette âme furieuse, inquiète de policier qui sait le pourquoi de tant de cas étranges, le mot de tant d'énigmes parisiennes, bougonna de sa grosse voix traînante. « Mais je vais vous le dire, madame, et je gage que vous n'aurez plus alors envie de blaguer notre pauvre camarade Réalmont. Vous lui marquerez même, car au fond, les femmes sont moins mauvaises qu'elles ne le paraissent, un peu de compassion, vous vous sentirez ému, comme au passage attendrissant de ces bons vieux drames que nous aimons et que tout à l'heure vous défendiez avec une telle chaleur. » Il se cala au fond de son fauteuil, et les paupières à demi abaissées, filtrant de vagues regards qui flottaient dans le vide, reprit. Oui, lui qui relevait à peine d'une de ces crises d'amour déçu, trahi, avili, où l'on pense perdre la raison, où l'on se jure de ne plus avoir de cœur, de ne plus s'attacher à rien, d'être désormais le jouisseur indifférent, blasé, qui change de femme comme on change de linge, qui ne met pas une parcelle de son âme dans les étreintes passagères, résiste aux prières autant qu'aux sanglots de colère et de haine, lui dort le temps, ce grand médecin, comme disait l'autre, avait lentement fermé et cicatrisé les plaies, qui était arrivé enfin à oublier, à avoir une apparence de bonheur calme à revivre, s'était encore laissé prendre tout entier par une nouvelle et adorable maîtresse. Ah, ceux qui sont par quelque pacte occulte voués à l'amour comme des proies opprimes ne lui échapperont jamais, ne briseront pas les liens avec lesquels il les guide dans l'ombre, les pousse, les rejette, les yeux leurrés, éblouis d'un éternel et merveilleux virage vers le gouffre. En vain se croiront-ils guéris, forts, armés contre les futures épreuves, en vain défieront-ils les tentations, triompheront-ils d'une femme de 2, de 10, de 100, toujours se dressera sur leur route, brusquement, face à face, comme pour un duel, la séductrice, l'inconnue, qui ressuscitera tous les ferments de sentimentalité, de rêve, de désir, de perversion assoupis en leur être comme du feu sous la cendre, qui les rallume de sa douce haleine, ces tisons qui n'étaient pas éteints. Il leur semblera que tout refleurit, qu'une éclosion de joie idéale embaume leur cœur, qu'ils ont à nouveau 20 ans, qu'ils partent pour une interminable étape de tendresse et de délices. Ils croient sincèrement qu'ils ne mèrent jamais à ce point une femme. Ils s'abandonnent. Ils voudraient sans cesse être dans ses jupes. Ils sont comme des enfants qui, le premier jour de l'année, ne peuvent plus manger ni dormir, s'exaltent, ont la fièvre parce qu'on leur apporte quelques beaux joujoux à surprise. Ils vivront jusqu'au fatal réveil, comme en une sorte d'ivresse. Et cependant, peut-on les plaindre? Ces condamnés qui usent leurs guenilles en des enchantements autant qu'en des angoisses, qui sont comme d'une race d'élus, qui rêvent double et que les beaux bras blancs de très aimés emportèrent au paradis, que leurs maîtresses ne peuvent abandonner sans retourner la tête malgré elles, sans écraser du bout des doigts quelques furtives larmes au coin de leurs paupières cernées. Alors il s'était comme emballé, accentué de longs gestes, des phrases tout à coup gonflées dont ne savait quelle fougueuse passion, et il s'arrêta avec, on lui dit, le regret d'avoir ainsi haussé le ton, perdu le fil de son histoire. Revenons à notre camarade, continua-t-il avec une bonhomie voulue. Donc, au moment où il y pensait, certes le moins, où il eût parié n'importe quoi qu'il ne redeviendrait jamais sérieusement amoureux, Réalmont s'était heurté à une de ces femmes comme on en rêve pour faire de compagnie l'aventureux voyage de la vie. Elle était le rire qui grise comme du vin nouveau, qui chasse les mélancolies, qui fait chaud au cœur, qui sent la joie et la jeunesse. Elle avait une voix changeante, suggestive, tantôt claire, vibrante comme du cristal, tantôt vague, sombrée, douée, douce comme les suprêmes gazouillis des fauvettes sous les feuilles quand tombe le crépuscule. Elle avait des cheveux fins comme de la soie, blonds comme un pâle soleil d'hiver, des yeux voilés, de longs cils attirants, comme des lèvres, une petite bouche délicate, pareil à un bijou de fée. Elle était grande et avait dans ses moindres mouvements, ses moindres gestes, la grâce onduleuse des ballerines. Et une âme simple, en dehors, où demeurait comme un peu d'enfance, où l'on voyait comme en l'eau limpide d'une source, où tout n'était que charme, qu'étourderie, qu'insouciance, que gaieté, que franchise. Ce fut entre eux une de ces liaisons que l'on envie, qui semble trop heureuse, trop passionnée pour pouvoir durer. Ils s'adorèrent pendant 4 mois tout juste, ne pensant à rien, ne s'entravant d'aucun souci, vivant comme s'ils avaient eu 100 000 livres de rente. Et comme elles sont toutes les petites filles de Manon, la trop jolie perdit un soir son amant en chemin, ainsi que le petit Pousset. D'autres que ce toqué de Réalmont eussent, selon le conseil du poète latin, noté d'une pierre blanche cette date où il recouvrait enfin sa liberté. Béni le destin, ce fût en hâte consolé sur l'oreiller amoureux d'une nouvelle maîtresse. Lui, or, devint presque fou, se désespéra, ne voulut ni suivre les conseils de ses plus anciens amis, ni se laisser assagir, ni s'apaiser. Il traîne cet incurable chagrin, cette perpétuelle nostalgie le long de l'existence. Son cœur est devenu comme une éponge à larmes. Et c'est pour cela qu'il fréquente, avec une maladive assiduité, les églises tordues de draperies noires, qu'il s'agenouille aux messes de deuil, qu'il suit jusqu'en les cimetières les plus lointains, les corbillards. Son âme blessée se fond, sa poitrine pleine de sanglots se dégonfle, ses nerfs se détendent au milieu de la tristesse qu'épante autour d'elle la mort, les graves psalmodies d'adieu, des dernières oraisons du chant douloureux des orgues. Là seulement, il peut, sans qu'on l'épie, sans qu'on le trouble, sans que l'on rie de sa faiblesse, s'abandonner à sa souffrance, à sa désolation, se rappeler le passé, l'amour qui n'est plus, s'imaginer qu'on en célèbre les solennelles funérailles, et se lamenter, pleurer jusqu'à ce que ses yeux n'en puissent plus et soient vides de larmes. Et l'on suppose à le voir prostré, abîmé en de telles afflictions, qu'il donne à des plus proches parents, à des plus anciens, des meilleurs amis du défunt, l'on a de navrantes exclamations, de longs regards moroses et pitoyables devant ce morne spectacle. On voudrait lui serrer les doigts d'une vigoureuse et cordiale étreinte, lui dire quelques phrases consolatrices. Mais il s'échappe avant la fin de l'office, se place derrière un pilier, regarde avec des yeux fixes les croque-morts qui ballottent et emportent le cercueil, se glisse dans le cortège, s'en va d'un pas inerte de somnambule derrière la famille, respire ces odeurs qui émanent à chaque chaos des couronnes, des bouquets entassés sur le sinistre coche du dernier voyage. Et comme tout se tait, comme on s'est aperçu de cette habitude étrange, comme nul n'en a approfondi le secret amer, et que chacun croit à quelque macabre turlutaine de détraqué, à un besoin de faire parler de soi, de se distinguer du commun, de pratiques amies qu'effraient les promenades obligatoires au Père-Lachaise, à Montmartre ou à Montparnasse, ont chargé réellement de leur commission funéraire, lui donnent des instructions pour leur marbrier, le prix de visiter les tombes de leurs parents, d'y déposer des fleurs et d'en vérifier le bon état. N'avais-je pas raison de vous dire en commençant que notre camarade était plus à plaindre qu'à blaguer ?